Merci d'écouter RFI, il est midi en temps universel, 14h à Jérusalem.
RFI midi, Simon Bourtembourg.
Et nous sommes ensemble pour une demi-heure avant le retour de l'actualité africaine. Au programme de RFI Midi, des analyses, des entretiens, des reportages de nos correspondants. Mais avant ça, le journal. Et à la une, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, alors même que l'État hébreu confirme la reprise des pourparlers indirects avec le Hamas à Doha. Le ministère de la Santé à Gaza affirme de son côté qu'au moins 88 Palestiniens ont été tués en l'espace des dernières 24 heures. Nous serons en direct de Jérusalem. Les heures sont comptées pour les enquêteurs en Corée du Sud. Yong Suk Yeol est toujours retranché dans sa résidence devant laquelle des milliers de manifestants sont massés. Le président déchu est pourtant visé par un mandat d'arrêt après sa tentative avortée d'imposer la loi martiale en décembre dernier. À la une de l'actualité également, l'impasse en Autriche et la démission du chancelier faute de gouvernement. Karl Nehammer s'employait à former une majorité depuis les législatives de septembre et la victoire de l'extrême droite. Il jette donc l'éponge, de nouvelles élections pourraient être convoquées. Et puis, gare à la grippe de retour en Europe. Cet hiver, le virus n'épargne pas les plus jeunes, nous le verrons. Les négociations ont donc repris avec le Hamas pour la libération des otages. Des discussions indirectes au Qatar confirmées par Israël. Il faut dire que la pression des familles d'otages est grande sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. L'armée israélienne a d'ailleurs intensifié ces derniers jours ses frappes sur la bande de Gaza. Michel Paul, vous êtes le correspondant de RFI à Jérusalem. Michel, l'enclave palestinienne a été particulièrement ciblée ces derniers jours.
Oui, Simon, ce sont les frappes israéliennes les plus intenses de ces dernières semaines sur la bande de Gaza. Plus de 100 cibles sur l'ensemble de l'enclave palestinienne depuis le début du week-end. L'armée israélienne affirme avoir éliminé des dizaines de membres du Hamas, selon un communiqué qui précise encore que plusieurs rampes de lancement de roquettes sur Israël ont également été détruites. Alors, comme à leur habitude, les militaires israéliens disent avoir pris des mesures pour atténuer le risque de toucher des civils, notamment l'utilisation de munitions précises. Mais le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme qu'au moins 88 Palestiniens ont été tués en l'espace des dernières 24 heures, sans donner plus de précisions. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, lui, a menacé d'intensifier les bombardements dans le territoire palestinien, faute d'un arrêt des tirs de roquettes sur Israël. Ces frappes interviennent alors que les négociations pour une trêve et pour la libération d'otages se déroulent dans la capitale qatarienne. Et Simon, de l'avis de plusieurs commentateurs ici, elle montrerait la volonté de marquer des points sur le terrain avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem, merci à vous. Israël qui accuse par ailleurs aujourd'hui le Hezbollah de ne pas respecter les termes de l'accord de trêve au Liban. En vertu du texte signé à la fin du mois de novembre, l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU doivent se déployer dans le sud Liban et l'armée israélienne s'en retirer sur 60 jours. Depuis le début de ce cessez-le-feu, les deux camps s'accusent mutuellement de violations répétées. Une première visite officielle au Qatar pour le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères. Il sera question des perspectives de coopération et de coordination entre la Syrie et le Qatar. La délégation syrienne est donc arrivée ce matin à Doha. Elle est également composée du ministre de la Défense et du chef des services de renseignement. Cette reprise de contact s'inscrit alors que le Qatar avait fermé sa mission diplomatique à Damas et rappelé son ambassadeur en juillet 2011. Je vous le disais en titre, ils sont des milliers à manifester sous la neige à Séoul, des partisans et des détracteurs du président sud-coréen déchu. Un rassemblement qui s'organise donc à la veille de l'expiration du mandat d'arrêt dont Yoon Suk-yeol fait l'objet, et ce pour sa tentative avortée d'imposer la loi martiale au début du mois de décembre. Une première tentative d'arrestation a déjà échoué vendredi. La garde présidentielle semble donc décidée à protéger le chef d'État pourtant suspendu. Et Camille Ruiz, le président par intérim, reste lui silencieux.
Pas un mot de la part de Choi Sang-mok à propos de la garde présidentielle qui a empêché l'arrestation du chef de l'État vendredi. Pourtant, le président par intérim a la possibilité d'agir, selon Christopher Jumin Lee, avocat diplômé de droit à l'université d'Harvard.
C'est le président en exercice. Il peut ordonner au service de sécurité présidentielle de se retirer. Compte tenu de la situation, on imagine que la garde présidentielle ne suivra pas ses ordres, mais cela montrerait au moins plus clairement aux yeux du public qu'elle est en train de transgresser la loi.
clear that they are violating the law.
L'avocat insiste sur le silence de Choi Sang-mok.
Le président par intérim aurait donc pu le faire à tout moment, même pendant l'impasse dans laquelle se trouvaient les enquêteurs vendredi. Mais il ne l'a pas fait. En fait, il n'a même pas évoqué le sujet, ce qui est en soi assez troublant.
De son côté, le Parti démocrate, principal parti d'opposition, tente de faire pression sur le président en exercice. Selon les médias locaux, un des porte-parole du parti a exigé de Choi Sang-mok, je cite, qu'il ordonne à toutes les agences de l'État, y compris le service de sécurité présidentielle et le secrétariat, de coopérer à l'exécution du mandat. La direction du Bureau sur la corruption des hautes personnalités a fait la même demande, jusqu'alors restée sans réponse. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
En France, après les membres de l'exécutif, c'est au tour de Marine Le Pen de se rendre à Mayotte. Trois semaines après le passage du cyclone Chido, qui a fait au moins 39 morts et 5600 blessés, la chef des députés du Rassemblement National entame aujourd'hui une visite qui devrait se clôturer mardi. Elle doit rencontrer des secouristes et des sinistrés sur l'archipel de l'océan Indien où sa candidature à la présidentielle de 2022 avait obtenu près de 60% des voix. Marine Le Pen, qui sera peut-être ensuite à Washington le 20 janvier prochain. Elle a en tout cas été invitée à assister à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, tout comme Giorgia Meloni, la première ministre italienne d'extrême droite, qui n'a elle pas attendu la fin du mois pour se rendre à une visite avec le président américain élu. En Autriche, une démission qui renforce un peu plus l'extrême droite. Le chancelier conservateur Karl Nehammer va quitter ses fonctions dans les prochains jours. Un aveu d'échec pour lui qui n'a pas réussi à mener à bien les négociations avec les sociaux-démocrates pour former un gouvernement. Voilà donc le parti d'extrême droite FPE de nouveau dans la course après avoir remporté un score historique à la législative de septembre dernier. À Vienne, les précisions de notre correspondante Isorias.
Après l'échec des négociations avec les sociaux-démocrates, le chancelier conservateur Karl Nehammer a regretté ne pas avoir réussi à créer de forces centristes qui auraient été un rempart contre les radicaux et annoncé sa démission dans les prochains jours. Karl Nehammer a toujours refusé de négocier avec le très sulfureux Herbert Kickl, chef du parti d'extrême droite FPE. Mais désormais, ce ne sera plus Karl Nehammer qui sera aux manettes. Les regards sont à présent tournés vers le président de la République, Alexander Van der Bellen. C'est lui qui devrait donner la marche à suivre ce dimanche. Deux scénarios s'imposent comme les plus probables. Soit les conservateurs négocient avec l'extrême droite pour former un gouvernement, soit de nouvelles élections sont convoquées. Dans les deux cas, l'extrême droite serait gagnante. Dans un possible gouvernement avec les conservateurs, le FPE serait en effet en position de force cette fois-ci, contrairement à leurs précédentes expériences, et obtiendrait très probablement le poste de chancelier. Quant à l'hypothèse de nouvelles élections, le FPE fait figure de grand favori puisque les sondages le créditent actuellement d'un score encore plus élevé que celui de 29% obtenu en septembre dernier. Isorias, Vienne, RFI.
Architecte de l'entrée de la Grèce dans l'euro en 2001, Kostas Tsimitis est mort ce dimanche à l'âge de 88 ans. Premier ministre de 96 à 2004, il détient le mandat continu le plus long en tant que chef du gouvernement de l'histoire grecque moderne. Une vague de grippe s'abat sur l'Europe. L'épidémie touche tout le continent et la France ne fait pas exception. Une augmentation des cas a été observée depuis les fêtes de Noël dans l'Hexagone. Les personnes âgées sont habituellement les plus touchées, mais cette année à Rambeng, la grippe affecte également les adolescents.
Tout à fait, Simon. Très contagieuse, la grippe hivernale a profité des fêtes de fin d'année pour se propager partout en Europe. Cette maladie, qui n'est pas un simple rhume, se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. En France, toutes les tranches d'âge sont concernées par l'épidémie de grippe hivernale, mais les enfants de moins de 15 ans sont les plus durement touchés par le virus de cette année. Selon Santé publique France, l'intégralité des régions de l'Hexagone est concernée par la grippe, dont les symptômes les plus graves peuvent être mortels, notamment chez les personnes âgées de plus de 60 ans et souffrant des difficultés respiratoires. La particularité du virus de cette année est qu'il touche beaucoup plus de jeunes de moins de 15 ans par rapport aux souches classiques de la grippe. Les autorités sanitaires rappellent que la méthode de prévention la plus efficace est la vaccination et qu'il n'est pas trop tard pour recevoir une dose jusqu'au 31 janvier.
À Rambeng du service France de RFI, merci à vous. Et puis cette course vers l'espace entre milliardaires. L'entreprise spatiale de Jeff Bezos s'apprête à son tour à mener le premier vol de son lanceur lourd. Haute de 88 mètres, la fusée New Glenn pourrait décoller de Cap Canaveral en Floride dès ce mercredi.
Simon Bourtembourg.
RFI midi, passé de 10 minutes en temps universel, nous sommes encore ensemble ces 20 prochaines minutes avant le retour de l'actualité africaine. À suivre, notre invité Damien Barchiche, directeur du programme Gouvernance du développement durable de l'IDRI. 10 ans après sa création et à 10 ans de son échéance, nous reviendrons sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Comme chaque dimanche, ligne de défense également, et cette question aujourd'hui en cette nouvelle année, 2025 sera-t-il synonyme de paix en Ukraine ? Dans un quart d'heure, le service culture nous propose une réflexion sur les liens entre l'art, la spiritualité et la culture. C'est en tout cas le sens de l'exposition « Rien de trop beau pour les dieux » à découvrir à la Fondation Opale en Suisse. Mais avant ça, les sports. Journal des sports avec vous, Olivier Prom, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et beaucoup de football encore ce dimanche. On commence avec le trophée des champions français à Doha au Qatar.
Autrement dit, chez les patrons, hein. Bon, bah, peut-être pas tout à fait du football français, mais pas loin, on peut en discuter. Du PSG, en tout cas, ça c'est sûr, et ça tombe bien, c'est le trophée parisien par excellence. 12 fois remporté en tout, 10 fois depuis l'arrivée des Qatariens. Il ne leur a quasiment jamais échappé. Bon, on ne s'emballe pas, hein. C'est le plus faible des trophées nationaux quand même. Entre le champion et son dauphin quand le champion remporte aussi la Coupe de France, qui était le cas la saison dernière. Donc en l'occurrence, là, le dauphin, c'est Monaco. Premier objectif de l'année, en tout cas pour les Parisiens, presque à domicile, on l'a compris, histoire de bien lancer une année 2025 qui s'annonce chargée. En janvier, ils devront notamment affronter Manchester City puis Stuttgart pour valider leur qualification en Ligue des Champions. Et Marquinhos veut évidemment bien démarrer cette année face au Monégasque.
On sait tous que le moment important, il arrive en deuxième partie de saison. C'est à nous de maintenant, de le retour des vacances déjà, de la pause, de penser déjà à être très compétitif, parce que ça va être très important d'avoir la meilleure équipe possible. Dans le mois de janvier déjà, on a 7 matchs. Et voilà, ça se passe par demain. Je pense que avoir un beau match demain, une belle victoire, amener le trophée à la maison, ça va nous donner de la motivation, ça va nous donner de courage pour affronter les grandes confrontations de plus en plus qu'on va voir dans cette deuxième partie de saison.
Ouais, c'est tout le mal que l'on souhaite aux Parisiens. PSG Monaco, coup d'envoi 16h30, temps universel, dans un stade 974 de Doha. Tiens, on nous avait pourtant bien expliqué à la fin du Mondial 2022 qu'il devait être démonté celui-là et reconstruit ailleurs. Bah, y a que les imbéciles qui changent de la vie.
Du football encore, Olivier, en France cette fois, avec la fin de la 16e journée de Ligue 1.
Lyon, vainqueur hier de Montpellier, est remonté à la 5e place à hauteur de Lille, tenu en échec par Nantes, 1-1. Ce soir, Marseille, 2e, tentera de revenir à 7 longueurs du PSG en battant Le Havre avant-dernier, dans un stade Vélodrome où les Olympiens ont perdu des points cette saison. 2 défaites, 3 nuls déjà. Il est donc grand temps de redevenir maître à domicile en étant enfin fort avec les faibles, nous dit le défenseur et milieu de terrain aussi, côté gauche, Quentin Merlin.
Le Havre, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est 17e au classement. C'est des équipes un peu comme Auxerre où on a fauté, mais on doit continuer sur l'élan des deux derniers matchs contre Monaco et contre Lille. Ne pas négliger certaines choses, de montrer qu'au Vélodrome, c'est nous les patrons et personne d'autre. On doit mettre de l'engagement, on doit mettre tout ce qu'on a mis en œuvre contre Monaco et contre Lille, on doit le mettre dimanche soir contre Le Havre pour montrer que plus personne ne peut venir prendre des points au Vélodrome.
Marseille-Le Havre, 19h45, temps universel auparavant, 14h. Lens-Toulouse, Angers-Brest, Strasbourg-Auxerre. Je vous vends du rêve, hein, là, hein, Simon. Allez, on se rattrape avec 2 affiches ailleurs en Europe. D'abord, le derby d'Angleterre ou North West Derby. Liverpool, large leader face à Manchester United, 14e. Prévu à 16h30, mais les conditions météorologiques, neige et verglas sur le nord du pays pourraient contraindre à un report, décision prise dans l'heure qui vient. Et puis en Italie, pas de souci, là, en revanche, pour le derby de Rome entre la Roma et la Lazio.
Et puis un mot de tennis maintenant pour terminer à Hong Kong.
Où le français Alexandre Muller a remporté ce matin à 27 ans son premier titre sur le circuit pro. Le 67e mondial qui devrait être aux alentours de la 56e place dès demain lundi a dominé le revenant japonais, ancien 4e, Kei Nishikori en 3 manches.
Un journal des sports signé Olivier Prom, merci beaucoup et nous en parlions il y a quelques instants. Ce dimanche, le PSG et Monaco s'affrontent pour le trophée des champions. Le premier grand rendez-vous de l'année pour les clubs français, ça se tiendra, vous le disiez, à Doha au Qatar. Un match qui a été reporté plusieurs fois et qui a donc finalement fini par être délocalisé dans l'Émirat. Preuve, s'il en fallait, Cédric De Oliveira, de l'influence du Qatar sur le football français.
Esa es nuestra sensación, jugar en casa. On a la sensation de jouer à la maison, Luis Enrique ne s'en cache pas. Pour l'entraîneur du PSG, détenu par QSI, actionnaire qatarien, ce trophée des champions aura lieu presque à domicile. Et si les supporters des deux clubs ne feront pas le déplacement de 5000 km, pour Christophe Le Petit, économiste du sport, Doha était la solution la plus évidente à court terme.
Ce qui a orienté le choix vers Doha, c'est probablement qu'il y a eu une offre financière du Qatar qui était supérieure à... Sans compter les sujets organisationnels, le Qatar, depuis 10 ou 15 ans désormais, organise très régulièrement ce type d'événement. Donc c'est des choses qui sont très rodées côté qatari.
Prévu au départ en août en Chine, l'événement pensé comme une vitrine du foot français à l'étranger a été reporté plusieurs fois. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire étaient intéressés. Et pour Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, ils auraient offert une autre exposition.
Si on réfléchit en termes de développement du produit Ligue 1, évidemment, il fallait pas aller au Qatar. Vous êtes sur un petit marché. Si on voulait internationaliser, il fallait aller ailleurs. Il y avait l'hypothèse asiatique plus large qui était sur la table, mais surtout une hypothèse ivoirienne avec un vrai financement. Et puis très rapidement, le Qatar a surenchéri. Pour le football français, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies.
Pour rafler la mise, le Qatar aurait mis 3 millions d'euros sur la table. Suffisant pour s'inscrire dans une logique que l'Émirat suit depuis plus de 15 ans, selon Christophe Le Petit.
Le Qatar, comme d'autres pays, instrumentalise le sport à des fins de soft power et à des fins géopolitiques. Donc il ne faut pas s'étonner de voir le trophée des champions français avoir lieu dans ce type de pays, ça fait partie de leur stratégie.
Alors que le foot français se serre la ceinture après des droits télé revus à la baisse, les liens entre le Qatar et la LFP n'ont jamais semblé aussi forts et font craindre un conflit d'intérêts. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, est notamment au conseil d'administration de la LFP et dirigeant de Bein Sport, l'un des diffuseurs de la Ligue 1. Pour Jean-Baptiste Guégan, c'est le signe que Doha a l'ascendant.
Alors aujourd'hui, le Qatar exerce un rapport de force. Avant, il était une solution, aujourd'hui, il peut être un problème. Il fait valoir ses intérêts là où avant, ses intérêts servaient le football français. Donc la Ligue 1 n'est pas un atout pour lui, c'est finalement une sorte d'élément de son fonds de commerce. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, ils sont plus à essayer de maintenir une position qu'autre chose, sachant qu'elle est clairement acquise dans le cadre du football français. Et c'est ce que nous dit aussi le fait que le trophée des champions se déroule à Doha.
À l'avenir, le Qatar devrait tenter de poursuivre sa stratégie de soft power avec d'autres compétitions. Le pays redoute de se faire distancer par son voisin, l'Arabie Saoudite, qui organisera notamment la Coupe du Monde de football en 2034.
La PSG Monaco. C'est donc ce dimanche à 16h30 temps universel. 10 ans pour transformer le monde. Voilà le slogan choc des Nations Unies pour défendre ses objectifs de développement durable. Le projet a été adopté en 2015 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il prévoit 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030 pour assurer la paix et la prospérité pour les peuples et les planètes. Nous vous proposons donc ce midi un point d'étape à mi-chemin. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Damien Barchich, directeur du programme gouvernance du développement durable de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Damien Barchich, les 17 objectifs des Nations Unies sont très variés, mais le monde de 2025 n'est pas celui de 2015. Est-ce qu'ils sont toujours réalistes, ces objectifs ?
Réalistes, c'est-à-dire pour les atteindre, ça va être compliqué, mais ils reprennent les grands défis mondiaux, vous les avez nommés, la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, la santé, la biodiversité et bien d'autres. Il reste d'actualité parce que c'est avant tout un agenda universel qui est applicable à tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, et à tous les acteurs, publics, privés, locaux et internationaux. Ce qui est important de noter, c'est que à l'origine, c'est un agenda qui venait des pays du Sud. Il avait été porté initialement par la Colombie, le Guatemala, puis le Brésil, suite à la conférence de Rio en 2012 sur le développement durable. Et il faisait partie, avec son pendant financier, l'agenda pour l'action d'Addis Abeba, d'un des éléments du deal passé avec les pays du Sud pour participer à l'accord de Paris sur le climat. Et il s'appuyait notamment sur trois grands principes qui sont aujourd'hui encore au cœur des grands enjeux auxquels le monde fait face, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'indivisibilité et l'approche systémique, c'est-à-dire que ces objectifs-là, ils ne doivent pas être traités de manière isolée. Leur force, en fait, elle réside dans leur approche intégrée, c'est-à-dire que comment on va lier les enjeux de sécurité alimentaire, de biodiversité, de santé, en intégrant aussi la question des égalités de genre pour nous pousser à innover, éviter les impacts négatifs. Il y a, vous l'avez mentionné, le caractère transformatif, transformer notre monde, c'est le titre qu'avaient donné les États membres à cet agenda, et de sa nécessité d'essayer de redéfinir les progrès tout en ne laissant personne de côté. Ça, c'était une priorité qui est au cœur et qui est un des principes fondamentaux, c'est-à-dire prioriser les plus vulnérables, que ce soit les pays les plus pauvres ou les populations les plus marginalisées.
Justement, les Nations Unies invitent chacun à la mobilisation, les individus, les entreprises. Mais c'est évidemment la communauté internationale et les États qui ont le plus de poids. Qu'en est-il de l'engagement de ces grandes puissances ?
L'engagement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'agenda 2030 a eu un impact politique essentiellement discursif, c'est-à-dire qu'il est repris dans un grand nombre de déclarations, évidemment au sein des Nations Unies, mais également au sein du G7. Le récent G20, sous présidence brésilienne, a fait énormément de mentions dès les premiers paragraphes de cet agenda-là. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est ce que les États passent à des approches plus normatives et aussi beaucoup plus transformatives. C'est-à-dire qu'on doit faire aujourd'hui passer des discours à des actions et des politiques plus concrètes. Et ça passe aussi par la question des financements, évidemment.
Et justement, passer les grands slogans et les annonces, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces États se soumettent à ces grands engagements ?
Je pense que, en fait, aujourd'hui, c'est l'un des enjeux, c'est de s'appuyer sur ce cadre-là pour en faire un vrai cadre d'action concret et disruptif, en fait, qui essaye en fait d'atteindre. On n'essaie plus d'atteindre simplement des cibles individuelles, mais de transformer fondamentalement nos politiques et nos pratiques. Et ça passe par un alignement des politiques économiques et environnementales, une vraie, véritable volonté d'éliminer les pratiques qui sont non durables et investir beaucoup plus dans les synergies entre les différents objectifs. Et je mentionnais agriculture et biodiversité, mais les questions aussi de santé, de changement climatique, etc. Et pour ça, on a besoin que les États, que ce soit, enfin tous les États, soient plus ambitieux, développent des plans nationaux qui soient plus robustes, qui tiennent compte des liens entre ces objectifs-là. Il y a des exemples intéressants d'acteurs qui se mobilisent. On le voit parmi les banques de développement, par exemple, qui essayent de faire évoluer leurs pratiques pour mieux intégrer cet agenda, à la fois dans leur stratégie et dans leurs opérations. Et ça, c'est un point très important parce que ça peut constituer un véritable effet levier, à la fois en termes de politique publique, mais aussi de financement.
Et à votre sens, Damien Barchis, est-ce qu'il est encore réaliste d'afficher comme ça ces 17 objectifs, comme le font les Nations Unies ? Est-ce qu'il ne serait pas plus honnête de se concentrer sur certains d'entre eux quand on voit ce qu'est le monde aujourd'hui ?
Les récentes crises en cascade qu'on a connues, elles sont liées à de multiples facteurs environnementaux, économiques, sociaux et aussi géopolitiques, chacun alimentant l'intensité des autres. Et elles ont amplifié les défis à relever pour atteindre les ODD, mais en même temps, elles viennent souligner que finalement, la prise en compte des interconnexions, qui avait été un des points de départ de l'élaboration de l'agenda 2030 pour le développement durable, est en fait aujourd'hui encore plus d'actualité. Et on voit bien qu'en fait, le défi que nous pose l'agenda 2030 en disant où on fait face à des objectifs qui sont interconnectés et sur lesquels on doit avancer à la fois sur tous ces différents défis, et bien en fait reste d'actualité.
Merci beaucoup Damien Barchis. Je rappelle que vous êtes directeur du programme gouvernance du développement durable de l'IDRI. Place désormais à la première chronique ligne de défense de l'année 2025. Et ce dimanche, Franck Alexandre se pose une question. Cette nouvelle année sera-t-elle synonyme de paix en Ukraine ? Après bientôt 3 ans de guerre, on parle d'éventuellement 1 million de soldats tués ou blessés des deux côtés du front. Les belligérants sont donc très affaiblis. Les conditions d'un règlement du conflit semblent se rapprocher. Mais quels scénarios sont sur la table ? Ligne de défense avec Franck Alexandre.
Difficile pour l'Ukraine de continuer le combat. En ce début 2025, le rapport de force ne lui est pas favorable et les États-Unis, son principal soutien, pourraient se défausser. Le cessez-le-feu n'est pas loin, estime Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Très certainement, on ira vers un cessez-le-feu, parce que le président des États-Unis le veut, et parce que je pense que les belligérants peuvent y trouver un intérêt. Les Ukrainiens, parce qu'ils sont en difficulté sur le terrain, les Russes, pour obtenir leurs gains.
Mais l'ouverture de pourparlers ne fait pas nécessairement taire les fusils, car souvent, pendant les travaux, la vente continue, ironise le diplomate Jean de Glignasti.
Comme une des deux parties ne souhaite pas le cessez-le-feu, D'abord parce qu'elle marque des points, c'est la Russie. Et puis d'autre part, la Russie, elle veut un traité de paix qui consolide ses acquis territoriaux. Alors que les Ukrainiens, maintenant que Trump est là, ils souscrivent à l'idée d'un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu provisoire, puisqu'ils se réservent la possibilité de récupérer leur territoire, soit par la diplomatie, soit par la guerre. Donc ici, il y a deux positions différentes. Et il est clair que pendant qu'on mettra ça au clair, la vente continue, c'est-à-dire hélas, la guerre. Et les morts et les blessés et tout ça.
Difficile dans ces conditions de trouver un chemin vers la paix, raison pour laquelle la question des garanties de sécurité offertes à Kiev est cruciale, insiste le géopolitologue Pascal Boniface.
Si l'Ukraine est contrainte de céder des territoires, on peut aussi comprendre qu'ils ont besoin de garanties pour l'avenir, parce qu'ils ont une confiance très modérée dans les promesses de Poutine. La présence dans un pays qui n'est plus en guerre contre la Russie de troupes françaises et britanniques pourrait avoir un effet dissuasif par rapport à la Russie.
Donald Trump a prévenu, même en cas d'accord de paix définitif, il n'enverra pas de soldats. Alors tous les regards, et à raison, se tournent vers Paris et Londres, décrypte Jean de Glinesti.
Au moment de l'ersatz d'accord de paix d'Istanbul, il était prévu qu'il y ait des garanties des pays membres du Conseil de sécurité. Et il se trouve que, membres du Conseil de sécurité, la France et l'Angleterre sont aussi membres de l'OTAN. Donc c'est une façon de contourner ce qui est un non possumus, c'est-à-dire une possibilité pour les Russes qui ne peuvent pas accepter que l'OTAN en tant que telle garantisse l'Ukraine et joue un rôle dans la paix en Ukraine.
Il est aussi possible qu'en 2025, la guerre continue. Toute pression pour des négociations trop tôt nuisent à l'Ukraine, estime ainsi Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne.
La ligne de défense signée Franck Alexandra, retrouvée chaque dimanche à la radio et à chaque instant sur nos applications.
RFI.
Une réflexion sur les liens entre l'art et la spiritualité et la culture. Voilà le sens de la carte blanche laissée à Jean-Hubert Martin par la Fondation Opale. L'exposition intitulée « Rien de trop beau pour les dieux » propose à ses visiteurs d'admirer des œuvres contemporaines de tous les continents imprégnées de spiritualité et de croyances. Si la religion et la foi font partie de l'art classique occidental, l'art contemporain est lui décrété laïque. Jean-Hubert Martin, le commissaire de l'exposition, ne s'est pas plié à cette règle. Muriel Mahalouf.
Hôtel Vaudou, impressionnant, avec ses 43 statues dédiées à Mamiwata, la déesse d'Afrique de l'Ouest. Un autre, cumulant aussi les personnages et statuettes pour le culte de Kimbanda au Brésil, entre tradition précolombienne et catholicisme, font partie des installations majeures de l'exposition orchestrée par Jean-Hubert Martin.
La mondialisation a fait qu'on a enfin ouvert les vannes, si je puis dire, à des artistes venant de continents et de croyances et de traditions complètement différentes. Et on fait que ce monde de l'art contemporain est en train de changer énormément en ce moment.
Une mondialisation qui permet aussi aux artistes de mêler les apports culturels. Ainsi, Hervé Yumbi, l'artiste camerounais, s'est inspiré pour son masque de Scream, le film d'horreur de Wes Craven, un masque de fantôme issu du cri d'Edward Munch. De même, il inverse les pratiques issues de la colonisation. Les collectionneurs occidentaux se procurent en effet des objets issus des rituels pour les exposer. Hervé Yumbi commence d'abord par exposer ses créations avant de les intégrer au rite.
Je produis des masques hybrides qui sont destinés dans un premier temps à être exposés et après qui retournent dans l'univers rituel. Et donc là nous avons un spécimen de masque Tso qui a été conduit dans un village dénommé Fondanti, c'est à l'ouest de Cameroun. Quand je dis conduit, c'est conduit dans l'univers rituel.
Le rituel que les artistes s'approprient, la chilienne Sandra Vasquez, reprend des éléments d'hôtel vaudou dans son œuvre contemporaine en céramique, composée d'une pyramide d'assiettes où percent des yeux, des visages. La coréenne Kim Suja présente, elle, un jukebox, véritable syncrétisme sonore, d'où jaillit des chants grégoriens, musulmans et tibétains. Les artistes aborigènes sont aussi présents dans la fondation Opale qui leur est dédiée au départ. Quatre hommes créent in situ une peinture au sol. Georges Petitjean, commissaire.
La pratique de faire de l'art ne peut pas être dissociée de la culture, de la religion. Donc, ces œuvres parlent de la terre, du pays, de ces artistes. Et il y a plusieurs mythes qui sont racontés dans ces œuvres. Ce que nous appelons mythes, eux, ils appellent cela Chukurpa, ou des rêves.
Une exposition qui repousse les frontières de l'art contemporain et le décloisonne.
Muriel Mahalouf qui nous présentait l'exposition « Rien de trop beau pour les dieux », un reportage que vous pouvez réécouter sur le site www.rfi.fr. C'est ainsi que se referme cette demi-heure consacrée à l'actualité internationale. Merci à vous d'avoir été avec nous. Votre prochain journal, c'est à 13h temps universel. D'ici là, restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Dans une minute, l'actualité africaine.